Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans le magazine de CFM Radio, Jacques Nguégan, avec vous pendant une petite demi-heure. Aujourd'hui, quelques propositions de sorties pour ce week-end, hein, des sorties ou des activités, hein, avec notamment ce dimanche où vous pouvez vous rendre à la 10e édition de la foire de la récup et du réemploi. Ça se passe au parc des expos d'Albi. Il y aura plusieurs stands d'information, mais aussi de pratiques ludiques pour apprendre à réparer, réutiliser ou relooker et donner donc une seconde vie aux objets. C'est gratuit, entièrement. Toute la foire hein, est entièrement gratuite. Elle est ouverte à tous les âges. Hein. C'est vraiment une manifestation familiale qui est organisée par le conseil départemental du Tarn. Et c'est M. Christophe Testas qui est le vice-président du département du Tarn qui nous résumera le programme dans quelques minutes. Et toujours ce week-end, mais cette fois-ci à Cordes-sur-Ciel, la 5e édition du Salon du Livre Jeunesse au Musée d'Art Moderne et Contemporain de la Cité. Ça se passe dès demain et jusque dimanche de 10h à 18h environ, avec des auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, mais aussi des spectacles, hein, le tout aussi entièrement gratuit pour les petits et comme les grands. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec l'un des auteurs invités, en la personne de Monsieur Thierry Colombier, qui vient cette année pour une série écologique destinée en particulier aux adolescents ainsi qu'aux adultes, une série qui cartonne hein, vraiment au niveau littérature jeunesse. Ça s'appelle Polar Vert. Il vient donc nous raconter un peu hein, les ingrédients et puis les intrigues hein, qu'il y a dans cette série littéraire. Voilà pour le programme de ce magazine qui, comme toujours, est agrémenté de musique, pop-rock essentiellement. Et c'est d'ailleurs en musique hein, que l'on commence ce moment ensemble, car paraît-il, hein, ça adoucit les mœurs, alors adoucissons-nous.
Sure. FM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Thierry Colombier est notamment l'auteur de la série Polar Vert qu'il vient présenter en personne ce week-end à Cordes-sur-Ciel pour le Salon du Livre Jeunesse, avec un moment de rencontre et d'échange ce dimanche à 14h30 au Musée d'Art Moderne et Contemporain de la Cité Médiévale. Bonjour Monsieur Colombier.
Bonjour.
Ça fait 2 ans maintenant que vous avez commencé cette série d'ouvrages destinés en particulier aux adolescents et aux jeunes adultes, après plusieurs romans et documentaires pour des adultes plutôt orientés sur la criminalité organisée. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi vous souhaitez maintenant vous adresser plus particulièrement, disons, aux jeunes lecteurs avec Polar Vert ?
Ben, disons qu'il y a deux raisons au fait d'avoir publié Polar Vert. La première, c'est d'offrir d'abord une lecture, on va dire, très basée sur le suspense, parce que le roman policier reste quand même une figure en termes de littérature qui est assez intéressante, notamment lorsqu'on l'écrit. J'espère que c'est aussi le cas lorsqu'on la lit. Mais je trouve ça très intéressant de pouvoir suivre justement une enquête. On voit à travers les succès des séries combien le public attend de ce suspense et de la façon dont les personnages vont évoluer. Et puis la deuxième, c'est forcément une forme de sensibilisation aux nouvelles générations, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas pour que les nouvelles générations puissent avoir, comment dire, une espèce de boîte à outils qui leur permettent après de mieux appréhender le monde, et notamment sous le prisme de la criminalité environnementale.
Mmh. Oui, parce que Polar Vert, ça fait écho à un polar écologique. Hein. Il y a 4 tomes dans cette série que je vous demanderai de nous présenter.
Oui, alors d'abord, moi, j'ai essayé de réfléchir à un concept qui puisse séduire un public adolescent, puisque ça s'adresse aux plus de 12 ans, 12-13 ans. J'ai repris les codes des séries télé. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle une saison et qu'il y a 2 tomes. Et que ces 2 tomes, en fait, comptent à peu près 50 de chapitres. Mmh. Donc, il faut imaginer que chaque chapitre est comme un épisode qu'on verrait, mais là, on le lit. C'est un peu la version littéraire. Et de fait, la résolution de l'enquête est à la fin du tome 2. Donc, le concept, c'est ça. C'est une saison, 2 tomes, 50 chapitres. Et surtout, après, c'est un lieu géographique qui se déroule en France. Parce qu'on a l'habitude de parler des crimes environnementaux en Afrique, avec le trafic d'ivoire, par exemple, lorsque les éléphants sont tués, sur les dauphins ou les requins, etc. Mais en fait, il y a aussi une criminalité qui est présente en France et c'était intéressant de travailler sur plusieurs régions. Donc la première saison se déroule en Bretagne et la deuxième saison se déroule dans les Pyrénées. Et c'est toujours la même héroïne qui s'appelle Clairvy Marzan, qui est une jeune Bretonne de 17 ans qui se retrouve à mener justement des enquêtes pour essayer, la première saison, de démanteler un trafic de civelles qui est la petite anguille, donc un trafic international qui prend source entre la Loire et la Vilaine, les 2 grands fleuves de Bretagne, Sud-Bretagne, et qui va jusqu'en Chine, avec évidemment aussi une sous-intrigue basée sur les algues vertes. Et puis après, cette héroïne part dans les Pyrénées, elle est mise au vert dans les Pyrénées, et elle va se retrouver, elle, confrontée à un autre crime, puisqu'il est interdit de tuer les ours ou de les capturer. Et elle va être le témoin oculaire du kidnapping d'un ourson. Et donc, qui a kidnappé l'ourson? Quel est ce mystérieux commando? Et donc, en tirant la ficelle, eh bien, elle va aussi découvrir qu'il existe du trafic de bois, du trafic de migrants. Et à chaque fois, j'essaye aussi d'amener des réflexions contemporaines, notamment sur la question du dérèglement climatique, puisque là, on touche aussi à l'écologie, à la problématique de l'éco-anxiété. Mais, et ça, c'est très important, j'offre aussi des solutions, parce que on pourrait voir que le côté un peu noir, hein, ce serait un polar vert noir, mais en fait, moi, ce que j'essaye de rester, c'est dans le vert, c'est-à-dire dans l'espérance, mais faire en sorte que, justement, les lecteurs puissent avoir des solutions et puissent essayer d'interagir avec le monde vivant.
Sachant que vous êtes un auteur qu'on peut qualifier de journalistique, hein, au vu de ce que vous avez produit comme écrit par ailleurs, hein, tout simplement, quelle est la part de réalité qu'il y a ici dans Polar Vert ?
Alors, tout est plausible dans Polar Vert. On considère que Polar Vert, ça fait partie de la littérature du réel, justement. Donc, on n'est pas du tout dans la dystopie ou dans une forme d'utopie, quoi que ce soit. On a les pieds ancrés dans nos territoires. Et puis, on essaie, à travers cette réalité, On essaie de voir comment cette jeune fille ainsi que les autres personnages vont pouvoir essayer enfin, en tout cas, d'abord découvrir ces crimes contre l'environnement et puis essayer de voir comment ils vont les résoudre. Et ce qui est important aussi, c'est que dans cette arène de personnages, il y a forcément des adultes, hein, parce que ce ne sont pas les adolescents qui commettent des crimes contre l'environnement. Donc, on a une palette de personnages qui est assez variée. Ça, je le dis, c'est important parce qu'aujourd'hui, Polar Vert est lu par 3 générations. Ça, c'est une énorme surprise pour moi, c'est-à-dire par les adolescents, par leurs parents, mais aussi par leurs grands-parents, qui d'abord aiment aussi la littérature jeunesse parce qu'elle est relativement facile à lire, mais aussi parce que justement, ça leur permet d'avoir une forme de mise à jour sur tous ces enjeux contemporains qui sont liés à l'écologie et à la criminalité environnementale.
Vous dites que c'est facile à lire la littérature jeunesse, mais est-ce que c'est facile à écrire?
Non, c'est pas, ce n'est pas facile à écrire, mais comme je vais souvent dans des collèges et des lycées, quasiment une fois par semaine maintenant, parce que ça, il y a eu énormément d'actions pédagogiques qui ont été réalisées sur Polar Vert. Et effectivement, chaque fois, on me demande, mais monsieur, est-ce que vous avez le syndrome de la feuille blanche? C'est à quoi je réponds, vous savez, si vous écoutez les grands sportifs de ce monde, eh bien, ils vous diront tous que c'est du travail. Eh ben, pour nous, c'est les auteurs, c'est exactement pareil. Moi, je réalise 3 grandes étapes pour écrire une saison. La première, c'est la documentation, des entretiens sur le terrain, du repérage. La deuxième, c'est eh ben, je monte l'histoire et je commence par la fin parce qu'il faut partir toujours de la fin. C'est normal, c'est la résolution qui nous permet d'arriver à savoir comment nos personnages vont terminer l'histoire. Donc ça dure vraiment très longtemps, ça peut durer jusqu'à 2 mois. Et puis après, enfin, et c'est le troisième chapitre, je pars sur l'écriture. Donc avec tout ce que j'ai déjà exploré auparavant et tout, j'ai écrit comme une espèce de chemin de fer, eh bien il me suffit de monter dans le premier wagon et puis après, j'ai plus qu'à mettre, alors je dirais pas du charbon dans la locomotive, parce que là on est en pleine écologie, donc plutôt des panneaux solaires. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et du coup, enfin, en tout cas, c'est ma façon de travailler. Lorsqu'on structure le travail bien avant l'écriture, eh bien, ça permet en tout cas de poser les enjeux, de poser les personnages, de voir comment ils vont évoluer et surtout d'aller vers cette fameuse résolution qu'on appelle le climax en dramaturgie.
Et pour garder cette métaphore du train, on va dire que vous êtes dans la locomotive et dans les différents wagons. Vous embarquez, hein, aujourd'hui, vous nous l'avez dit, plusieurs générations et notamment les plus jeunes, hein, parce que autour de cette série Polar Vert, il y a pas mal d'actions pédagogiques qui sont menées dans des établissements pour faire découvrir le vivant, mais aussi les environnements de nos régions. Donc, c'est finalement plusieurs objectifs que vous êtes fixés avec cette série.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'étais lundi au collège de Cordes. J'étais invité par l'équipe pédagogique et par Madame Gaumont Notaillard, qui est professeure documentaliste, qui réalise tout un travail sur l'ours et qui va permettre d'ailleurs aux 3 cinquièmes du collège de partir à Arbas, en Haute-Garonne, pour aller sur les traces de l'ours au mois de mars. Donc, vous voyez, à partir de la lecture d'un seul enfin, ou de 2 ouvrages, en tout cas de Polar Vert, on voit comment on peut réaliser, à travers la découverte de l'ours, hein, qui est quand même un animal mythique des Pyrénées, qui est une figure imposante de la littérature aussi, comment on peut amener les enfants justement à aller partir de ce voyage immobile qu'ils peuvent réaliser en lisant le bouquin, jusqu'à un voyage très mobile justement dans la montagne. Puisqu'ils vont avoir en plus la chance de passer une nuit en refuge. Donc, je trouve ça formidable de pouvoir donner cet élan. Et je pense que ça aussi, c'est important parce que ça fait, c'est dans ma démarche, c'est aussi de dire, voilà, si on veut rencontrer le vivant, il faut aussi se déplacer, il faut être curieux, il faut être bienveillant, il faut ouvrir les yeux, les oreilles, mobiliser les 5 sens. Et puis, à partir de là, on aura peut-être une autre façon de voir la montagne ou la plage, ou en tout cas, ne plus le voir comme un paysage.
Thierry Colombier, vous recroiserez le chemin, hein, des collégiens du collège Valsérou de Cordes-sur-Ciel ce dimanche à 14h30 au Musée d'art moderne et contemporain de Cordes-sur-Ciel pour la 5e édition du Salon du Livre Jeunesse, parce qu'ils vont animer une partie de la rencontre qui est prévue avec vous. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de la série Polar Vert, un polar écologique qui nous sensibilise toutes et tous aux notions environnementales, mais aussi à l'environnement de nos régions. Merci beaucoup d'avoir été sur CFM Radio. On se donne rendez-vous donc ce dimanche à Cordes-sur-Ciel.
Ok, on se retrouve dimanche. Puis juste un petit mot pour les locaux, parce que je suis originaire de Verfeil-sur-Seille, qui est un village de Cordes,
oui.
Côté Tarn-et-Garonne.
Oui.
Donc voilà, je suis un peu la coqueluche de la région, etc. Donc j'invite tous ceux qui me connaissent à venir me voir, et puis on passera un très bon moment autour de la table.
Eh bien, le rendez-vous est pris, Thierry Colombier. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci à vous, au revoir. On my back, I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. But the big black car said, look this way. He said, hell and day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No. No, I said no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No. Not the one for me. Ooh.
CFM Cordes, le mag.
Nous sommes dans la semaine européenne de la réduction des déchets et dans ce cadre, de nombreuses manifestations et ateliers sont organisés pour nous sensibiliser à des comportements, disons, plus vertueux. Et ce dimanche, nous avons rendez-vous au Parc des Expos d'Albi où le Conseil départemental du Tarn organise la 10e foire de la récup et du réemploi. C'est destiné à tous les publics, à tous les âges, avec un accès gratuit pour tout le monde. On en parle avec monsieur Christophe Testas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président du conseil départemental du Tarn en charge du développement durable. Et pour cette foire, la récup et le réemploi sont au cœur de la sensibilisation du public, monsieur Testas. Un public qui viendra donc au parc des expos d'Albi. Qu'est-ce qu'il y a au programme dans les grandes lignes ?
Alors tout d'abord, il faut sensibiliser le grand public à la réduction des déchets. Donc le département, en 2013, avec le soutien de l'ADEME, nous avons créé cette foire de la récup et du réemploi. Et c'est la 10e édition que nous allons organiser ce week-end. Nous essayons de tourner sur l'ensemble du département. On a été à Groyer, on a été un peu partout dans le département. Et là, on s'est fixé sur Albi pour que différentes populations puissent se fixer et être au cœur de la problématique. Mmh. Et donc, on ne pourra pas et on ne peut pas faire cette manifestation sans que des collectivités soient à nos côtés. Notamment la communauté d'agglomération de l'Albigeois, la communauté d'agglomération de Gaillac-Grouillé, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, mais surtout Trifil, qui est un acteur essentiel de la valorisation des déchets ménagers et assimilés, le CIPOM de Revel, et bien sûr la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui sont des partenaires pour ce réseau de réparation. Et donc ce week-end, surtout dimanche bien sûr, à Albi, au Paris Exposition, il y aura une trentaine d'activités proposées, mais c'est à la fois des activités ludiques pour lutter contre le gaspillage, mais aussi des réparations et des rencontres avec des acteurs locaux de la réparation pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc, vous me demandiez combien de manifestations et d'activités on pourrait avoir. Mais on peut dire qu'on aura une trentaine d'activités proposées avec des stands.
Mmh. On peut y aller pour réparer son vélo, créer des bijoux, réaliser des produits d'entretien et même dans le cadre de Noël, pourquoi pas réaliser des décorations de Noël, j'imagine, à partir d'objets qui sont détournés, récupérés. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est à la fois pour que les familles puissent venir en nombre avec leurs enfants pour pouvoir s'amuser, mais aussi pour pouvoir découvrir de la création de bijoux, de la réparation de vélos, des petits objets abîmés, notamment autour de l'équipe du Repère Café et du réseau des réparateurs qui sera là. Il y aura aussi une naturopathe hein, qui travaillera sur la et qui démontrera que l'actofermentation des légumes et les bienfaits de la cuisine santé. On a aussi la recyclerie Planète Réemploi avec des coussins doudous. Voilà. Il y a aussi le réseau Environnement Santé qui nous parlera des perturbateurs endocriniens. Mmh, voilà, le CPIE du Pays Tarnais aussi qui sera là. Les vélos rigolos des Francas. Donc voilà, à la fois des activités ludiques, mais aussi des activités de réparation.
Et puis, ben, c'est aussi l'occasion hein, de rencontrer les différents acteurs que l'on a, on va dire, localement, hein, au niveau du département et qui œuvrent autour de cette thématique. On parle beaucoup des repères cafés, des repères associations actuellement partout en France. Qu'en est-il dans le Tarn, vous, qui suivez cela, on va dire, un peu plus finement ?
Alors, c'est dans l'air du temps, ça, on l'a bien pu le voir. On essaie de lutter contre l'obsolescence programmée, on essaie de lutter contre la déperdition des matériels. Et donc, le Tarn s'est bien développé autour d'une dizaine de réseaux des réparateurs agréés. Mais bon, il y a surtout celui d'Albi qui est bien connu, le Repère Café.
Vous avez mentionné le syndicat mixte qui gère et valorise les déchets de tous les Tarnais, hein, c'est Trifil. Trifil qui est dans notre actualité, on va dire, non seulement depuis le début de l'année, parce que tout le monde l'a constaté, hein, la législation a évolué depuis le 1er janvier 2023 par rapport à la gestion des déchets. On jette maintenant les emballages plastiques dans les poubelles de recyclage. Quelles leçons vous avez de Trifil par rapport à cela? Est-ce que les Tarnais ont bien pris le pli de cette, on va dire, évolution de la gestion de nos déchets?
Alors, je pense que les Tarnais ont bien pris le pli, et puis l'engagement du département est historique auprès de Trifil, pour l'optimisation du process industriel de Trifil. Le coût de traitement, par exemple, des déchets dans le Tarn est le moins cher d'Occitanie. C'est 89 euros par tonne par usager, contre 131 euros en moyenne dans la région. Donc, on est aux côtés de Trifil parce qu'on sent bien que c'est bon pour les Tarnais. Par exemple, cette année, nous allons augmenter notre participation financière à hauteur de 4,15 millions d'euros en direction du syndicat afin qu'il puisse effectuer sa mission d'intérêt général dans les meilleures dispositions, avec notamment la nouvelle usine qui va être créée pour faire de la biomasse et de l'énergie. Et donc, nous, on est aux côtés de Trifil, on est aux côtés de Daniel Vialet, le président. Donc, c'est un défi majeur de notre société, hein. La protection de l'environnement, c'est au cœur de nos actions. Mmh. Nous, on s'y engage avec volontarisme, c'est vrai, mais avec détermination dans l'intérêt de notre territoire. Donc, c'est tout bonus pour à la fois la planète, mais aussi pour le porte-monnaie des Tarnais.
Oui, investir dans le déchet n'aura jamais été aussi important hein, pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, en parlant de Trifil, ce sera à nouveau dans notre actualité parce qu'à partir du 1er janvier 2024, cette législation sur les déchets poursuit son évolution. Hein. On en reparlera, on en a déjà un peu parlé sur CFM Radio.
Je voulais simplement rajouter qu'il y a une expérimentation qui est faite sur CAS actuellement, donc j'en bénéficie moi. Et on traite maintenant au travers de petits sacs de récupération de tous les déchets de la cuisine, les déchets ménagers, organiques, ménagers organiques pour faire du compost et pour réutiliser encore une fois un peu mieux tout ce que nous dégageons comme déchets.
En tant que vice-président, Monsieur Testas, de notre département en charge donc du développement durable, quelles sont les priorités, on va dire, de votre délégation et pas seulement en matière de réduction des déchets? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Le département, on ne le sait pas, on le sait, au travers de notre compétence obligatoire, qui est la compétence de la solidarité, et la solidarité entre les hommes et les femmes du département, à tous les âges de la vie et au niveau du social, qu'on parte de la PMI jusqu'à l'APA pour les personnes âgées en passant par le RSA, et l'aide pour les personnes en situation de handicap. Mais on a une autre compétence, mais qui est un peu volontariste, c'est la solidarité territoriale. Le département est le premier acteur aux côtés des collectivités territoriales. Et donc, à ce titre-là, nous sommes engagés en direction du développement durable et de l'environnement. Donc, on s'occupe beaucoup d'eau, énormément d'eau, puisqu'on a édité un livre blanc dernièrement, suite à une grande conférence qu'on avait menée avec l'Agence de l'eau Garonne, débouché sur un livre blanc, et qui va nous engager à hauteur de 29 millions d'euros sur les 5 ans à venir, pour préserver notre ressource en eau, par exemple. On va accompagner les agriculteurs qui veulent faire des petites retenues collinaires au travers d'études, mais aussi de travaux. On va accompagner les syndicats de rivières pour le bon écoulement des rivières. On va accompagner tous les acteurs de la forêt bois et de la filière bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département, par exemple, est propriétaire de 920 hectares de forêt. Mmh. On ne le sait pas, mais on a de la forêt à Lozéral. On a de la forêt à Sivens, à Sérénac, et on va engager de grands travaux avec l'ONF dans le cadre de la restructuration de ces forêts pour permettre que la forêt tarnaise se redensifie et s'adapte au dérèglement climatique. Le grand défi à venir, c'est ça, c'est faire en sorte que les arbres que nous avons plantés sont des arbres qui vont résister au nouveau dérèglement climatique.
Selon vous, et ce sera là le dernier mot pour que vous vous adressiez un peu plus directement à ceux qui nous écoutent, quels sont les comportements peut-être qu'il faudrait encore améliorer lorsqu'on vit ici dans le Tarn pour notre biodiversité, pour notre environnement, pour un développement durable?
Alors, c'est paradoxal, mais je crois qu'on s'engage beaucoup, le département, avec les associations, notamment avec Arbre et Paysage, au niveau de la plantation de forêts et d'arbres, de haies. Les Tarnais, je pense que ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui ont les pieds là où il faut, et qui connaissent bien la difficulté de la nature et la difficulté de la nature à avoir une résilience par rapport au changement climatique. Et ça, les Tarnais, je pense qu'ils sont prêts, ils connaissent bien leur territoire. Ils savent, on le voit notamment le long du chemin des droits de l'homme, par exemple, entre Castres et Albi, on va créer des espaces naturels sensibles où les gens pourront aller en se promenant, voir comment la nature fonctionne et qu'est-ce qu'elle met en place pour bien résister aux difficultés climatiques. Donc je pense que les Tarnais sont prêts, sont aptes et sont en capacité à faire en sorte qu'on avance dans le bon sens pour la nature et pour la protection de l'environnement.
Et on peut se rendre au parc des expos d'Albi ce dimanche pour en apprendre un peu plus sur des moyens et des méthodes pour récupérer, réparer, réutiliser, relooker et donner une seconde vie aux objets. C'est la 10e foire de la récup et du réemploi de 10h à 18h au parc des expositions d'Albi. C'est gratuit, ouvert à tout le monde et c'est organisé par le conseil départemental du Tarn pour lequel monsieur Christophe Testas est vice-président en charge du développement durable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur CFM Radio.
Merci à vous.
Et sur ces belles perspectives s'achève le magazine de CFM Radio. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, à notre écoute certainement. On se retrouve lundi, même fréquence, même heure. Les informations tout de suite sur CFM Radio. Belle fin de journée.